Actualité Santé. Sandrine Mercier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Priorité Santé. 44 millions d'enfants de moins de 5 ans seraient en surpoids dans le monde. C'est un chiffre donné par l'OMS, l'Office mondial pour la santé, et la majorité d'entre eux vivent dans les pays du Sud. En France, l'obésité infantile a doublé en 10 ans, et un enfant sur 5 aujourd'hui est considéré en surcharge pondérale. Un constat alarmant quand on sait qu'un enfant trop gros a toutes les chances de le rester adulte, et avec les risques que ça comporte sur sa santé. Alors, à qui la faute? Aux gènes, à l'alimentation trop sucrée, à la télé, à l'éducation trop rigide? Tu vas finir ton assiette, mon fils. Mais comment repérer l'obésité infantile? Quelles en sont les causes? Et qu'est-ce qui marche en termes de prévention? Contactez-nous si vous avez été un enfant dodu, par exemple, comment vous l'avez vécu. Et si vous êtes un parent concerné aussi, on attend vos questions. Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 et partagez vos commentaires sur notre page Facebook. Mon enfant est-il gros? On en parle aujourd'hui avec le docteur Laurent Fidalgo. Bonjour.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien.
Vous avez fait de la prévention contre l'obésité des enfants votre combat. Vous êtes médecin nutritionniste au centre hospitalier de Marne-la-Vallée. Vous collaborez également au sein du réseau pour la prise en charge et la prévention de l'obésité pédiatrique Île-de-France. On appelle ça le REPOP Île-de-France. Est-ce qu'on peut vraiment parler de l'obésité infantile comme d'une maladie, docteur Fidalgo?
Alors, on utilise la définition de la maladie qui apporte un désordre dans l'état de santé général, ça peut effectivement devenir une maladie. On peut aussi parler d'une maladie dans le sens où il y a un support génétique et épigénétique qui entraîne les désordres qui seront causés, eux, par l'environnement.
Alors, merci d'être là avec nous, hein, attentif aussi aux nombreuses questions des auditeurs pour répondre à leurs interrogations. Nous irons au Maroc en deuxième partie, rendez-vous avec le docteur El Arbi Djimati, puisque ça devient aussi un problème de santé publique au Maroc. De nombreuses questions arrivent sur Facebook. Quand est-ce qu'on peut déclarer qu'un enfant est obèse? La différence aussi entre obèse et surpoids, hein, ça c'est des questions qui reviennent. Beaucoup pensent par contre que l'obésité est un signe de prospérité aussi. Et oui, il vaut mieux faire envie de pitié, comme on disait aussi chez nous. Tim Boyongo de Kisangani en RDC nous demande est-ce que grossir est uniquement l'effet de manger? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes possibles? Fabrice, j'ai envie de terminer avec lui. Il dit il faut reprendre le temps de se retrouver autour de bons plats cuisinés à l'ancienne. Arrêtons de prendre Marie, Ronald, Williams ou Vico. Ce ne sont pas de bons aides de ménager. Et une parole philosophe aussi de Bai Diouf. L'aristocrate est obèse par sédentarité et le pauvre par malbouffe. De quoi faire réagir Laurent Fidalgo, le médecin nutritionniste qui est avec nous. Continuez d'envoyer vos commentaires sur Facebook et ou appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Très content que vous soyez avec nous, docteur Fidalgo.
Bonjour,
vous avez un parcours un peu atypique, hein. Vous avez commencé par être médecin urgentiste, ça vous a occupé quand même 17 ans.
Ça a été ma première passion.
Et après, vous vous êtes tourné vers la nutrition, donc. Et alors moi, ce qui m'intéresse, parce que vous êtes médecin, mais vous connaissez bien le sujet du dedans, je dirais, puisque vous êtes un ancien enfant obèse.
Oui, tout à fait. Oui. Je pense que c'est probablement ce qui m'a orienté vers cette deuxième discipline. La médecine d'urgence a été ma première passion. Et du fait de ma problématique personnelle, j'ai été un adulte aussi, un adolescent et un adulte obèse. Je me suis penché sur cette question-là.
Et alors, comment vous en êtes sorti? Parce qu'aujourd'hui, tout va bien.
Ce que je dis souvent de manière ironique, c'est que la première chose qui m'a permis de sortir de ça, c'est d'arrêter de faire des régimes.
Donc, les régimes font grossir, c'est bien connu.
Exactement.
Donc vous avez trouvé un autre rythme alimentaire.
Voilà, j'ai trouvé le rythme alimentaire et le mode de vie avec l'activité physique qui va avec, qui me correspond, parce que chaque personne a une problématique unique et il n'y a pas une recette valable pour tout le monde.
Il faut savoir trouver effectivement celle qui lui convient. Alors beaucoup de douleurs, d'isolement aussi, de moqueries hein, quand on est enfant et qu'on est un peu gros, un peu enveloppé. Il y avait un auditeur un jour qui nous disait dans l'émission que lui on l'appelait Obélix, mais lui bah, il s'en foutait car Obélix il est fort, c'est aussi un signe
oui, tout
c'est
à
pas
fait.
Toujours perçu. Oui.
Oui, oui, tout à fait, effectivement, c'est ce que je dis aux petits-enfants que j'ai l'habitude de suivre, c'est qu'Obélix, bah, c'est le plus fort, hein, et il est tombé dedans quand il était petit, effectivement, c'est parce qu'il est tombé dans la marmite quand il était petit qu'il a acquis cette force.
Alors, qu'est-ce qui vous paraît, vous, vraiment fondamental pour comprendre l'obésité des enfants aujourd'hui ?
Alors, fondamental pour le comprendre, c'est qu'il faut comprendre que c'est d'abord, c'est une maladie, enfin, c'est une problématique multifactorielle. Il n'y a pas qu'une seule cause à l'obésité et chaque paramètre de l'environnement de chaque enfant peut jouer en sa faveur ou en sa défaveur. Mais avant tout, le substrat qui vraiment est le support de l'obésité, c'est le substrat génétique. C'est-à-dire qu'on est prédisposé dès la naissance à avoir des problèmes de poids ou pas.
Donc un enfant ne devient pas obèse parce qu'il mange trop ?
Non. S'il est prédisposé et qu'il mange trop, il pourra devenir obèse. Mais un enfant qui n'a pas une prédisposition génétique pourra manger autant de cochonneries qu'il voudra. Il ne prendra pas de poids parce qu'il n'a pas cette prédisposition génétique.
Donc avec des parents obèses, on a plus de chances de le devenir soi-même.
Tout à fait. C'est maintenant statistiquement prouvé. D'avoir deux parents obèses, ça multiplie par 14 le risque pour l'enfant de devenir obèse plus tard.
Donc quand on a compris ça, effectivement, on comprend l'obésité un peu différemment. Et c'est le cas de Lydia, hein, qui est une jeune femme qui doit faire face d'ailleurs à son obésité depuis qu'elle est toute petite. Mais elle a aujourd'hui 28 ans et elle a un bébé de 16 mois qui s'appelle Miguel. Et dans sa nouvelle vie de mère, eh bien, l'équilibre alimentaire de son enfant, c'est vraiment un défi hein, qu'elle essaye de relever. On sent que ça l'occupe beaucoup. Elle est à moitié craintive, mais en même temps elle est douce et elle essaye de prendre ça vraiment en main. C'est un reportage de Lydie Moucha Malirois.
Les difficultés que j'ai pu avoir, c'est dans un premier temps les médecins qui nous regardent en disant « Vous pouvez faire demi-tour, revenez dans 22 ans quand vous aurez perdu 20 kilos. » C'est frustrant. Hein, l'obésité, voilà, elle fait partie de mon quotidien, de ma vie. Je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Bien sûr, je sais qu'il faut perdre du poids, qu'une grossesse... ben voilà, il y a des risques avec le surpoids, d'hypertension, de diabète gestationnel... C'est des risques qui font peur, mais bon, après, dès que je suis tombée enceinte, j'ai été suivie quand même par une nutritionniste qui m'a permis de perdre du poids. J'ai perdu du poids pendant ma grossesse, j'ai perdu 30 kilos. Et puis, plus d'hypertension ni de diabète en fin de grossesse.
Coucou, chérie. T'es sortie de... Tu viens ? Oui, je vais t'attraper. Tu fais un bisou ? Bisous.
Ça peut faire peur. C'est vrai que le bébé, quand il est né, on s'inquiète toujours. Quand mon fils est né, la première chose qu'ils ont fait, c'était piquer son pied, faire une glycémie. Donc c'est vrai que c'est frustrant. On se dit, bah mince, c'est peut-être de ma faute. Mais non, au final, il était en pleine santé. C'est un bébé qui à la naissance, faisait 3,6 kg. Donc il a manqué de rien du tout. Il était en pleine forme.
Tu veux goûter, Miguel ? Tu veux manger quoi ?
Par rapport à l'alimentation, c'est vrai que les médecins, avec une maman obèse, sont toujours plus méfiants. Il faut toujours plus surveiller. On a le pédiatre qui, à 3 mois, nous dit bon, bah, il faudrait peut-être diminuer un petit peu les biberons parce qu'il prend trop de poids. Il faudrait le mettre au régime. Mais mon bébé a 3 mois. Non, non, je ne mets pas mon bébé au régime. Il hurle au bout de 4 heures parce qu'il a faim. Je lui donne son biberon au point.
Qu'est-ce que tu veux manger ?
Ça alerte tout de même, mais bon, après je le vois, il évolue, là il commence la marche depuis quelques mois, donc ils font aussi, donc c'est rassurant. Mais c'est vrai que la semaine dernière, quand je l'ai vu avec son boudoir assis dans le fauteuil, j'ai dit bon, faudra peut-être que je fasse attention aux habitudes que j'ai, et comme il a tendance à copier un peu tout ce que je fais, donc oui, non, c'est vrai que j'ai pas envie que non plus qu'il ait cette image là, donc faudra que, enfin voilà, je commence à faire attention.
D'abord la compote et après le yaourt au chocolat. Nickel.
Bébé, c'est assez cadré, hein. On sait que toutes les 4 heures, il y a le biberon de telle dose. Mais c'est dès que vient la diversification alimentaire, là c'est un peu différent. Surtout par exemple en ce moment où il fait un peu ses caprices pour ne manger comme nous, donc il refuse l'alimentation. Il veut plus ces petits pots que je prépare avec amour.
Le goûter, je le laisse choisir. Mais les autres pas, non, parce qu'il a le droit qu'au chocolat qu'une fois par jour ou tous les deux jours.
Par moment, il refuse, il pousse l'assiette, il ferme la bouche, il se tourne la tête. Il a envie de manger comme nous. Donc peut-être qu'il faudra que je change nos habitudes, que ce soit un petit peu moins gras, moins... Le corps médical, oui, m'a mis en garde sur ces choses-là. Donc oui, des fois, il y a des craintes hein, sur l'alimentation. Je fais toujours un peu plus attention. Je pense que d'autres mamans qui n'ont jamais eu de soucis avec l'alimentation.
Eh bien, Miguel.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, le bébé de Lydia, donc Miguel, n'est pas obèse. Hein, puis, en plus, depuis qu'il marche, il a fondu aussi, elle le dit, hein, il a maigri. Laurent Fidalgo, vous êtes nutritionniste. Alors, quand vous entendez cette maman obèse et les précautions qu'elle prend pour l'alimentation de son enfant, le fait qu'elle ait maigri aussi autant pendant sa grossesse, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça?
Alors, le cas de Lydia est très intéressant parce que ce qui est très positif, c'est la vigilance bienveillante de cette maman par rapport à son enfant et de la prise de conscience que le fait qu'elle ait elle-même un problème d'obésité présente un risque qu'elle le transmette à son enfant. En revanche, ce qui est très intéressant aussi à souligner, c'est que j'ai bien peur qu'aujourd'hui on passe d'un extrême à l'autre et que les professionnels de santé et les médecins en particulier qui surveillent les grossesses des femmes obèses veuillent peut-être trop bien faire et transformer cette vigilance bienveillante en une obsession ou une phobie de la transmission de l'obésité. Et j'ai peur qu'on fasse un peu le contraire.
C'est ce qu'elle dit quand elle dit qu'à 3 mois, mon bébé, on lui a dit de faire un régime à 3 mois. Elle n'accepte pas ce
discours-là. Et même pendant la grossesse, aujourd'hui, ouais. On sait que les gynéco-obstétriciens sont très vigilants, peut-être parfois trop, sur le poids de la femme enceinte. Et faire perdre 30 kilos à une maman parturiente, on sait aujourd'hui, les études scientifiques nous montre que les parents transmettent aussi leur environnement de manière génétique à leurs enfants. Et de provoquer des diètes comme ça ou des famines à des femmes enceintes pourrait provoquer la transmission d'une résistance particulière à la famine. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette génétique de l'obésité, c'est une génétique de sauvegarde. C'est grâce à cette génétique que l'espèce humaine est encore vivante aujourd'hui.
Notre capacité à faire des réserves, vous voulez dire?
C'est une capacité à faire des réserves, en particulier dans des situations de crise, que peuvent être des famines, des migrations, des stress, de stress social aujourd'hui. Et d'engendrer un stress comme ça chez une maman qui porte un enfant et lui faire perdre du poids, on sait que de manière épigénétique, c'est-à-dire que sur son gène à elle, elle va y apporter des adaptations, ce qu'on appelle des méthylations, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais l'enfant va être possiblement plus muni contre la famine. Et on a des études scientifiques qui montrent que, par exemple, des femmes qui sont enceintes et qui perdent du poids pendant leur grossesse favorisent éventuellement l'obésité de l'enfant.
Alors comment savoir déterminer aussi quel enfant va être à risque de devenir obèse? Vous l'avez dit, un des facteurs du risque, c'est d'avoir des parents.
Voilà. Obèses. Alors la première chose, c'est ça, c'est que si dans la famille, ça peut sauter une génération. Hein, si on a des grands-parents qui sont obèses et que les parents ont échappé par une bonne hygiène de vie à cette problématique, il faut toujours être vigilant. C'est-à-dire que, mais comme je le dis, une vigilance bienveillante, pas une obsession, et donc de surveiller l'enfant. Et dans ces cas-là, la plus importante à faire, c'est de tracer ses courbes de corpulence. Aujourd'hui, dans tous les carnets de santé en France, il y a les courbes de corpulence qui sont complètement sous-utilisées. C'est donc la corpulence et le rapport entre le poids et la taille, le poids divisé par la taille au carré. On fait des courbes et on observe l'évolution de la corpulence de l'enfant. Il faut absolument le faire dans ces cas-là entre 2 ans et 6 ans. Peser et mesurer l'enfant tous les 6 mois et voir quel est son comportement par rapport aux courbes standards du pays en question. En France, on a des superbes courbes qui ont été faites par le professeur Roland Cachera, mais il y a aussi des courbes IOTF de l'OMS, et c'est très intéressant parce qu'on observe ce qu'on appelle un rebond précoce d'adiposité. Donc cette maman qui a son enfant qui a aujourd'hui 18 mois doit pas être... je trouve qu'elle a un bon comportement, elle est bienveillante, et il n'est pas question de mettre
son enfant dans la courbe, dans les courbes
voilà.
aujourd'hui.
Et donc il faut surveiller jusqu'à 6 ans.
Alors on va tout de suite prendre le docteur Nathalie qui nous appelle depuis le Ghana. Bonjour docteur.
Bonjour, j'aurais aimé savoir ce que vous pensez donc d'un nourrisson qui a moins de 6 mois, qui est uniquement au lait maternel et qui a effectivement un surpoids important. Et savoir donc quelle attitude adopter et quelles sont les implications pour plus tard.
Donc là, quand on est au début de la croissance, c'est ça, un bébé qui est déjà en surpoids et qui est allaité, est-ce que c'est, ça peut être, est-ce qu'il peut y avoir un lien? C'est ça un peu votre question?
Voilà. Et uniquement sur les maternelles, donc on ne peut pas mettre sous régime.
Alors pas du tout, au contraire, toutes les études montrent que l'allaitement maternel est même un facteur protégeant de l'obésité. Et en revanche, quand on regarde les courbes, effectivement, les enfants qui sont allaités à 100% en lait maternel ont, dans la première année de croissance, une corpulence supérieure aux courbes standards. Et donc, il est normal de voir qu'un enfant, jusqu'à un an, qui soit allaité complètement, dépasse les courbes, et ce n'est pas inquiétant, jusqu'à un an. À partir de un an, sa corpulence doit redescendre, même s'il est, il continue à être allaité, et c'est à partir de deux ans qu'il faudra supporter, surveiller cette courbe de corpulence. Mais l'excès de corpulence d'un enfant allaité entièrement au sein est plutôt une bonne chose à observer.
Merci beaucoup, hein, docteur Nathalie. Et vous précisez aussi dans votre témoignage que 20%, il y a 20% d'enfants obèses au Ghana. Donc c'est aussi un pays qui est largement touché. Beaucoup de questions entre la différence entre le surpoids et l'obésité. À partir où est-ce qu'on met le curseur, hein, docteur Fidalgo?
Alors chez les enfants, c'est difficile parce que ça dépend de l'âge et donc il y a des courbes pour ça, hein, des courbes de l'OMS. Et en France, c'est les courbes de corpulence de Roland Cachera qui sont dans les carnets de santé. Donc il y a des courbes. Et en fait, on détermine le surpoids et l'obésité par rapport à l'indice de masse corporelle adulte. C'est-à-dire que ces courbes amènent jusqu'à un IMC adulte de 25, par exemple, pour la normocorpulence. Ensuite, entre 25 et 30, si la courbe sur laquelle est l'enfant amène sur l'IMC 25-30 à l'âge adulte, on dit qu'il est en surpoids. Et s'il dépasse ce qu'on appelle la courbe, alors ça s'appelle IOTF-30, International Obesity Task Force, on dit qu'il est en situation d'obésité. Mais pour chaque enfant, il faut vraiment tracer sa corpulence sur la courbe.
Donc c'est un rapport entre le poids et la taille.
Entre le poids et la taille. Alors il y a un autre indice qui est très intéressant quand on n'a pas les courbes, qui est très intéressant à utiliser, c'est le rapport entre le tour de taille et la taille. En fait, c'est ce qu'on appelle le tour de taille sur taille. Il y a une façon particulière de prendre le tour de taille. On prend le tour de taille de l'enfant à l'endroit où il est le plus étroit, bizarrement, mais c'est la façon internationale de prendre le tour de taille. On divise le tour de taille par sa taille en centimètres, on obtient un rapport et on dit que si le rapport est supérieur à 0,5, c'est-à-dire que si l'enfant a un tour de taille supérieur à la moitié de sa taille, il pourrait donc être en situation d'obésité.
Il faut savoir où on prend exactement la taille, c'est ça.
C'est voilà, il y a une technique particulière qu'on peut pas montrer à la radio, mais c'est une technique particulière.
En tout cas, pour terminer cette première partie, tous les chiffres de l'obésité progressent partout dans le monde. D'une manière générale, docteur Fidalgo.
Oui, et en particulier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est en particulier dans les zones socialement difficiles. L'obésité est inversement proportionnelle au niveau social, et dans les zones où il y a une précarité sociale, l'obésité est beaucoup plus importante. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que l'obésité avait été multipliée par deux sur les 10 dernières années. On a l'impression que sur les 3 dernières années, l'obésité ralentit sa croissance en France, sauf dans les zones socialement défavorisées.
D'ailleurs, ça me fait penser à, pour terminer, il y avait un petit message assez philosophe, effectivement, de Baïdiouf. L'aristocrate est obèse par sédentarité, le pauvre par malbouffe. C'est juste alors ce qu'il dit.
Alors, je pense pas que ce soit la malbouffe chez les pauvres, parce que effectivement, il y a cette problématique de malbouffe. Mais quand une famille est stressée socialement, quand elle a des difficultés sociales, quand elle sait pas de quoi va être fait le lendemain, eh bien naturellement, génétiquement, elle va avoir tendance à faire des réserves de prévention.
On va continuer comment lutter contre l'obésité infantile avec vous, docteur Laurent Fidalgo, nutritionniste. Vos témoignages sont les bienvenus au 33 1 84 22 75 75 et continuez d'échanger sur nos pages Facebook. On se retrouve dans 3 minutes après le flash.
Priorité santé. Sandrine Mercier.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez, c'est Priorité Santé. Non, je ne suis pas gros, répond Obélix quand on le traite, je suis juste un peu enveloppé. Il dit aussi je suis fort et musclé. Alors aujourd'hui, plus qu'à l'époque des Gaulois, il semblerait que notre société pousse à l'obésité. Le nombre d'enfants en surpoids est passé de 32 millions en 1990 à 44 millions. Et 25 ans plus tard, ce sont surtout les familles défavorisées qui sont touchées. Alors pourquoi cette inégalité? En quoi l'obésité est une maladie grave aussi, mais surtout, qu'est-ce qui marche pour prévenir l'obésité chez les jeunes? Comment aider par exemple un enfant gourmand à moins manger? Beaucoup de questions sur nos pages Facebook qui arrivent pour vous, docteur Laurent Fidalgo. On attend vos appels au 33 1 84 22 75 75. Alors l'obésité des enfants, on est avec le docteur Laurent Fidalgo, très impliqué dans la prévention à travers le réseau de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Le RIPOP Île-de-France. Vous êtes médecin nutritionniste aussi au pôle médical des Alizés, c'est ça, à Marne-la-Vallée. Alors, dans un instant, dès que la ligne est établie avec le Maroc, on aura le docteur El Arbi Jimati aussi, qui est secrétaire général adjoint de la Société marocaine de nutrition, puisque là-bas aussi, eh bien, l'obésité chez l'enfant devient aussi un problème de santé publique. Alors, beaucoup de questions qui arrivent sur Facebook. On a du mal un peu à voir tous les auditeurs qui nous ont appelés. Mais vous voulez vraiment mettre l'accent sur la prévention, le dépistage, on en parlera. D'abord, parler de l'inégalité, effectivement, c'est aussi un thème qui revient souvent. On a l'impression que c'est une question aussi profondément inégalitaire chez les enfants. Est-ce que plus on est pauvre, plus on est gros?
C'est difficile à dire comme ça, mais effectivement, les difficultés sociales favorisent la prévalence de l'obésité dans ces familles. Alors c'est multifactoriel, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas qu'une seule cause. On peut incriminer la malbouffe, on peut incriminer aussi la difficulté d'accès aux légumes, enfin aux végétaux, légumes, fruits, etc. à cause de leur prix. On peut aussi incriminer la difficulté d'accès aux activités sportives pour ces familles qui ont, alors dans certaines zones, tout est fait pour favoriser l'activité sportive, mais bien sûr que ça intervient dans tout ça.
Et mais j'ai vu que le niveau d'études des parents aussi.
Oui, oui, parce que oui, alors ça c'est une étude effectivement qui montre que c'est inversement proportionnel au niveau socio-culturel des parents. Bah oui, on peut dire que des parents plus informés, plus cultivés entre guillemets, mais qui ont plus accès à l'information nutritionnelle et financièrement aussi aux produits de meilleure qualité, apporteront une culture nutritionnelle plus équilibrée à leurs enfants, c'est sûr.
Mais est-ce que la pub à la télé aussi, ou pensez-vous qu'elle est responsable, ou c'est ce qu'elle fabrique des petits obèses, hein?
On peut pas dire ça, mais je pense que d'asséner des images valorisant les aliments trop sucrés et trop gras, bien entendu que ça, quand on voit des publicités où l'enfant voit un petit lion super fort qui mange des céréales qui sont bourrées de sucre et de gras, bien sûr que ça va lui donner envie de manger plutôt ces céréales-là plutôt que des muesli bio sans sucre ajouté, c'est clair.
Et que pensez-vous des messages de prévention, les 5 fruits et 5 légumes, les 5 fruits et légumes par jour, qu'on voit écrit en tout petit là sur la pub des gâteaux par exemple?
Alors pour moi le message comme ça écrit sur une pub ou sur un gâteau ne sert à rien, parce que c'est un message qui est dispensé à l'ensemble de la population, et il faut pas oublier que seuls 25 à 30% de la population est concernée par ce message-là. Ça veut dire que voilà, il y a 70% de la population qui voit ce ce message et qui n'en a rien à faire. Ce qu'il faut, c'est vraiment cibler les messages vers les familles qui ont besoin de ce message de prévention.
Et comment, bien sûr que... comment on les touche? Alors, il faut aller sur place. Il y a eu pas mal d'actions de prévention dans les zones, dans les cités ou
tout
autres.
Tout à fait. Il faut aller vers les familles qui ont cette problématique-là, vers les parents qui sont eux-mêmes en surpoids ou obèses et qui donc ont même l'intention de se reproduire. C'est un message qu'il faut leur donner dès ce moment-là, leur disant que, voilà, comme Lydia tout à l'heure, elle a un problème d'obésité. Aujourd'hui, elle est sensibilisée et elle va apporter une culture nutritionnelle, à mon avis, exemplaire à son enfant.
Éduquer les enfants au goût, mais peut-être aussi à la sensation de faim. Non, comment
oui,
on peut gérer ça?
Ça, c'est très difficile. Ouais. Alors, si vous voulez, ça fait partie des nombreuses choses qu'il y a à faire avec une famille, avec un enfant obèse. C'est pour ça qu'au REPOP, nous, on a mis en place une équipe pluridisciplinaire. Un seul intervenant n'est pas suffisant. Un médecin, même aussi bien formé qu'il soit, a besoin d'aide. Et par exemple, au REPOP, on crée des équipes de trois personnes, un médecin, une diététicienne et une psychologue. Et effectivement, cette psychologue pourra aussi apporter cet exercice de reconnaître la sensation de faim et la sensation de satiété. Ça, c'est un problème sociétal très important. On n'a plus le réflexe de manger quand on a faim et d'arrêter de manger quand on n'a plus faim.
Mais d'ailleurs, il y a une question qui est aussi sur Facebook. Comment aider un enfant gourmand à moins manger? Vous savez, ces enfants qui ont envie toujours de boulotter, enfin, voilà, on lui dit « Ah, mais arrête de manger tout le temps, ces enfants qui ont toujours faim, qu'est-ce qu'on fait ?»
C'est très difficile. C'est très difficile parce que plus on va lui dire d'arrêter, plus il aura envie de le faire. Donc, ce qui est très important, c'est chaque enfant est différent. Il y a des enfants qui vont boulotter par ennui plutôt, d'autres par angoisse, par sensation de manque. Des enfants qui manquent de quelque chose, d'affection, d'attention, de sécurité. Chaque enfant est différent et on peut pas dire voilà, il y a une recette pour empêcher les enfants de manger. Un enfant peut manger pour diverses raisons, par ennui, par peur, par angoisse, par tristesse. Et chaque enfant il faudra trouver la solution pour chacun des enfants.
Il faut aller voir ce que ça cache derrière.
Exactement.
En fait, se poser la question. Alors, on va tout de suite prendre le docteur El Harbi Jimati. Bonjour, docteur.
Bonjour.
Alors, on est content de vous parler. Vous êtes en direct de Rabat, puisque vous êtes nutritionniste au Maroc et secrétaire général adjoint de la Société marocaine de nutrition. Alors, on se posait la question, comment ça se passe chez vous au Maroc? Est-ce que le pourcentage des enfants avec une surcharge pondérale augmente également?
Oui, écoutez, l'obésité, la malnutrition, le surpoids chez les enfants, c'est un phénomène mondial. Et je pense qu'au Maroc aussi, nous avons des données sur cette situation. Une enquête nationale a montré qu'environ 11% des enfants souffrent d'obésité, de surpoids, avec une proportion de 2,5 concernant l'obésité.
Mais comment est-ce que c'est perçu au Maroc? En disant en France, les enfants obèses sont stigmatisés. Au Maroc, est-ce que c'est plutôt bien vu peut-être, ou dans la culture? Racontez-nous.
Non, c'est la même perception. L'obésité, c'est un problème qui a des conséquences sur la santé et les parents s'inquiètent quand un enfant a une obésité sur son avenir de point de vue santé.
Mais est-ce que les patients, du coup, viennent vous voir assez facilement?
Oui, il y a des parents qui viennent consulter et viennent demander de l'aide pour diminuer le poids de leurs enfants et avoir des régimes, disons des conseils sur le plan nutritionnel pour diminuer le poids de leurs enfants.
Et alors, comment vous les traitez, vous, ces familles qui viennent vous voir avec leurs enfants obèses? Vous attaquez le problème par quelle bouche, je dirais?
Non, on ne fait pas de traitement. Généralement, on se base sur des conseils nutritionnels et un suivi de l'alimentation de l'enfant. C'est ça la principale prise en charge ministrée à ces enfants.
Alors, quel type de régime? Est-ce que vous parlez de régime et à partir de quel âge?
Voilà, bien sûr, là, jusqu'à, nous, on est pour la promotion de l'allaitement maternel déjà, donc il y a pas mal d'actions qui favorise donc la pratique de l'allaitement maternel, donc qui encourage, qui soutient et qui protège aussi l'allaitement maternel. Et ensuite vient la deuxième phase de l'alimentation de l'enfant. Et là, les conseils sont connus. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre tout ce qui est apport nutritionnel, notamment en termes d'énergie et les dépenses, et aussi ce que ces enfants pratiquent de sport, pratiquent une activité physique, ce qui est malheureusement devenu un petit peu rare chez tous les enfants qui restent souvent cloués devant les écrans et ne pratiquent pas suffisamment une activité physique qui leur permet de dépenser un petit peu ces apports énergétiques excessifs.
Oui, vous remarquez ça aussi, et les enfants effectivement passent plus de temps devant la télé, devant les écrans, et moins de temps dans les cours à jouer, à se dépenser. C'est un vrai problème, oui, Laurent Fidalgo, c'est la même chose en France,
oui,
la même chose.
Les écrans, ne serait-ce que par l'immobilisme qu'ils provoquent, quels que soient les écrans, que ce soit télévisuel, des consoles ou des... Maintenant, ils ont tous des tablettes ou des téléphones, ça les rend immobiles, et effectivement. L'écran est probablement, quand vous me demandiez les causes tout à l'heure, les écrans font partie vraiment des causes importantes de l'obésité.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les arracher les écrans, les pousser dehors, sortir avec eux, faire une activité.
Alors voilà. Vous avez dit le maître mot, c'est vraiment sortir avec eux. C'est vraiment une culture familiale qu'il faut mettre en place et non pas priver l'enfant de son écran par punition, mais solliciter un dynamisme familial.
Docteur El Arbi Djimati, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier message que vous aimeriez vous diffuser aussi auprès de la population?
Non, moi je dirais le dernier, juste un dernier mot. Il ne faut pas oublier que ce problème de surpoids et d'obésité, c'est vrai qu'il provient d'un déséquilibre alimentaire et les dépenses. Et aussi, il y a d'autres dimensions qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui est développement socio-économique, et aussi les politiques mises en place, notamment en industrie agroalimentaire, tout ce qui concerne donc la production. Là aussi, c'est un appel. En tout cas, ce phénomène, il est multifactoriel et il faut agir d'une manière multidisciplinaire. Donc c'est la contribution de tout le monde qui va faire en sorte que ce phénomène va régresser et diminuer donc cette prévalence d'obésité, de malnutrition chez les enfants, et avoir une population avec le moins de conséquences à l'âge adulte, quoi.
Merci beaucoup, docteur El Arbi Djimati, donc nutritionniste à Rabat au Maroc et secrétaire général adjoint de la Société marocaine de nutrition.
Priorité santé sur RFI.
Comment vaincre l'obésité infantile? D'après l'OMS, l'obésité infantile frappe près de 44 millions d'enfants dans le monde, on l'a dit. Mais c'est vrai qu'en France, elle recule un peu depuis 2010. Vous êtes d'accord, Laurent Fidalgo?
La vitesse de croissance ralentit. On n'a pas encore de retour en arrière.
Bon, mais c'est une question, on l'a vu aussi, profondément inégalitaire. Mais vous avez envie surtout de mettre l'accent, c'est ce que vous me disiez là pendant le flash. Il faut dire qu'on peut faire de la prévention et du dépistage. Ça, il faut vraiment le dire, c'est important. Alors,
c'est
il faut commencer
important.
Par quoi?
Il faut commencer par, comme on a dit tout à l'heure, quand des parents ont des problèmes d'obésité, quand ils se font des enfants, quand ils se reproduisent, ils doivent avoir conscience qu'ils peuvent transmettre cette facilité à leurs enfants. Et nous, les professionnels de santé, on doit avoir ce message de prévention avant même la conception de l'enfant. Et lorsque l'enfant est né, lorsque l'on voit des parents obèses qui amènent un enfant qui a pour l'instant 1 an, 18 mois, 2 ans, qui n'a pas de problème de surpoids, on doit dispenser des messages de prévention et faire c'est vraiment cette surveillance du poids et de la taille, tracer cette courbe de corpulence qui est un outil extraordinaire de dépistage.
Mais dès que la courbe est un peu élevée, alors à l'âge de 2 ans, ça veut dire qu'il faut déjà mettre le régime, mettre les enfants au régime à 2 ans?
Surtout pas. La deuxième cause d'obésité dans le monde, à mon avis, ce sont les régimes. Donc il n'est pas question de mettre un enfant au régime, il n'est pas question de vouloir faire perdre du poids à un enfant. C'est d'être vigilant et de savoir que cet enfant, parce qu'on a vu sur sa courbe de corpulence qu'il y avait un rebond précoce d'adiposité, va avoir une facilité à devenir obèse. Et donc, il faut absolument, avant l'âge de 5 ans, avant cette période qu'on appelle de néophobie alimentaire, où l'enfant va refuser tous les légumes, etc., avant même cette période qui va être difficile, et surtout avant l'adolescence, mettre en place des habitudes nutritionnelles et de l'activité physique. Un enfant qui a un rebond précoce d'adiposité, c'est un enfant qui doit être inscrit dès l'âge de 6 ans à des activités sportives ou qui doit être éloigné le plus vite possible des écrans. C'est vraiment un enfant, comme je dis souvent à ces enfants qui sont déjà obèses, ils sont pas faits pour être sédentaires. Ce sont des enfants qui sont faits comme des forces de la nature, ils ont besoin d'être actifs. Et s'ils ne le sont pas, ils vont acquérir cette obésité.
Donc il faut déjà prévoir effectivement des périodes où ils aillent se dépenser, c'est ce que vous dites, des 3-4 ans, donc on les met dehors, on les inscrit au foot si c'est des garçons.
Exactement, à l'éveil sportif, dès l'âge de 3-4-5 ans, on peut, mais même ne serait-ce que prendre l'habitude d'aller faire une balade en vélo le week-end en famille et de pas rester toute la journée du dimanche devant la télé. Ça, ce sont des choses qui sont simples. Il n'y a pas besoin d'inscrire un enfant à un sport. Il faut effectivement solliciter les activités physiques familiales. Moi, je pense que l'exemple est très important à donner pour l'enfant.
Alors, nous avons Gaëlle aussi qui nous appelle de Lubumbashi en RDC. Bonjour Gaëlle. Merci.
Oui, bonjour,
député. Merci d'être avec nous sur Priorité Santé. Alors, vous aviez une question, on vous écoute.
Oui, dans les temps, l'obésité était observée seulement chez les adultes. Hein, mais actuellement, elle est fréquente chez les enfants. Hein, donc, moi, dans ma famille, il y a déjà deux de mes... Donc, il y a une neveu et une nièce qui ont de l'obésité. Alors, je voulais savoir... Hein, je voulais savoir les causes de l'obésité infantile et les préventions pour l'éviter.
Oui, et vous posez aussi la question, est-ce que c'est héréditaire, puisque dans votre famille, effectivement, vous avez déjà un neveu, une nièce. Merci beaucoup, hein, Gaëlle.
Comme je trouve déjà deux ans, hein, comme il y a déjà deux enfants dans la famille qui souffrent de l'obésité, alors je me dis qu'est-ce qu'elle est héréditaire.
On va d'abord répondre à cette question, Gaëlle, avant de voir effectivement les précautions à prendre pour éviter l'obésité infantile, docteur Laurent Fidalgo.
Oui, je pense qu'on a déjà bien largement abordé cette question héréditaire. Alors héréditaire, oui, bien sûr, ça se transmet de parents à enfants et même ça peut même, il y a une transmission transgénérationnelle. Hein, ça peut sauter une génération. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'obésité est le fruit d'une inadaptation entre la génétique et l'environnement. C'est une maladie génético-environnemental. C'est pas une maladie génétique héréditaire comme pourrait être le diabète de type 1, comme pourrait être d'autres maladies génétiques qui se transmettent quel que soit l'environnement. Là, c'est vraiment une inadaptation entre la génétique et l'environnement. Aujourd'hui, on a vu des populations exploser au niveau de la prévalence de l'obésité, en particulier par exemple les Mexicains. Aujourd'hui, on sait que les États-Unis ne sont plus les premiers mondiaux au niveau de l'obésité, mais que le Mexique et l'Égypte sont passés devant. Et en fait, ce qui s'est passé au niveau du Mexique, c'est que c'est l'invasion de la culture industrielle nord-américaine qui a modifié complètement les habitudes nutritionnelles des Mexicains et qui ont provoqué cette obésité. On observe ça aussi dans les populations migrantes. Une population issue, par exemple, d'un pays d'Afrique et qui va migrer dans un milieu complètement différent va avoir cette réaction génétique de sauvegarde. Donc, il faut bien comprendre que c'est 30% de la population. On estime à peu près à 30% la population qui est particulièrement prédisposée à savoir faire des réserves. C'est une population qui doit être active dans la vie quotidienne. Je pense que il y a cette inadaptation qui est à prendre en considération. Et donc au niveau alimentaire, c'est pareil. Des enfants, bien sûr, les enfants sont pas faits pour manger du fast-food, des cochonneries, des céréales sucrées, etc. On n'est pas fait pour ça. Et c'est cet environnement qui va jouer sur l'enfant et qui va provoquer cette obésité, mais que chez l'enfant qui a cette prédisposition.
Mais en même temps, alors qu'est-ce qu'il faut donner à manger aux enfants? Il y a des questions. Elle demandait, Gaëlle, les précautions effectivement à prendre pour éviter l'obésité infantile. On se pose la question, comment rééduquer aussi après avoir pris des mauvaises habitudes alimentaires quand on est enfant et qu'on s'en rend compte? Qu'est-ce qu'on mange alors?
Ce qui est très difficile, c'est de rééduquer. Voilà, c'est ça qui est très compliqué, et c'est ce que chacun des professionnels de santé ou de professionnels de l'enfance qui est en face d'un enfant déjà obèse va avoir de très grandes difficultés à changer des habitudes. Ce qu'il faut, c'est justement pouvoir les donner avant. Et donc c'est cette prévention que l'on prône au niveau du REPOP et ceux qui s'occupent d'obésité infantile. Donc quand les mauvaises habitudes,
quand on voit que ça fait plaisir, quand on voit un enfant mange bien de choses un peu sucrées, que sinon il est là, il râle tout le temps, il mange pas, les parents ont peur de mal faire aussi.
Ouais, je pense qu'on a aussi peut-être un petit peu trop tablé sur l'alimentation pour compenser d'autres plaisirs qui ne sont pas apportés dans la vie. C'est vrai qu'on va gâter un enfant en lui apportant de la nourriture ou des gâteries sucrées, alors que peut-être qu'il y aurait d'autres moyens de le gâter et de lui apporter du plaisir. Donc c'est vrai que la nourriture est devenue un instrument de transmission de plaisir. Voilà, on va gâter les enfants avec des bonbons, il faudrait peut-être mieux les gâter avec de l'affection et des plaisirs de la vie familiale.
Mais est-ce que vous avez des règles, vous, par exemple, je sais pas, concernant les bonbons, est-ce que je dis n'importe quoi, est-ce que c'est le bonbon une fois par semaine? Est-ce qu'il faut mettre des limites comme ça?
Chaque enfant, c'est différent. La juste mesure, sans aller vers la privation. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette prédisposition génétique nous prémunit contre la privation. Et donc, un enfant que l'on met au régime va avoir des défenses physiologiques qui vont lutter contre ces privations. Et même psychologiques, la frustration, le manque, etc., vont provoquer des phénomènes de rattrapage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des adolescents. Avant, c'était que le cas des adultes, mais aujourd'hui, on a des adolescents qui ont de troubles du comportement alimentaire, avec des véritables compulsions alimentaires, parce qu'à force de vivre des privations, ils sont pris de compulsions, et c'est là que c'est difficile. Il faut savoir donner la juste mesure, et puis savoir compenser ce qu'on va diminuer. C'est-à-dire que si un enfant a l'habitude de prendre beaucoup de gâteaux et de bonbons dans la journée, il faut lui faire comprendre qu'il doit en consommer moins, mais il faut trouver un moyen de compensation pour ce
qu'est-ce
plaisir.
Qu'est-ce qu'on propose, par exemple, à la place?
Trouver qu'est-ce qui pourra lui apporter d'autres plaisirs que nutritionnels. Et peut-être même aussi, alors c'est pas obligatoirement un problème de plaisir, c'est peut-être aussi un problème d'occupation. Peut-être que cet enfant qui mange des paquets de gâteaux devant la télé aimerait bien faire autre chose que de regarder la télé. Il pourrait peut-être faire d'autres choses avec sa famille. Mais c'est difficile, il faut vraiment, frère, c'est du cas par cas. Vraiment, on peut pas accuser les familles de laisser leurs enfants manger n'importe quoi. Et si on doit gâter un enfant, bah, vaut mieux le gâter avec une petite voiture ou avec une poupée ou avec un jeu qu'avec un gâteau.
Ou une pomme. On peut peut-être substituer le gâteau. Non, c'est pas drôle, une pomme.
Oui, c'est pas drôle. Ouais,
ou un fruit.
Gâter
un
enfant avec une pomme.
Alors, on va tout de suite prendre Amadou qui nous appelle de Conakry, de Guinée-Conakry. Bonjour Amadou.
Bonjour madame, vous allez bien?
Ça va très bien, merci. Et vous avez une question pour le docteur Laurent Fidalgo? On vous écoute.
Ok, juste moi je voudrais savoir si manger tardivement la nuit peut causer l'obésité.
Alors si on mange effectivement avant d'aller se coucher par exemple pour les enfants, est-ce que ça peut créer, effectivement, est-ce qu'on va stocker dans la nuit? C'est des fois ce qu'on imagine.
Alors, oui, causer l'obésité, pas directement, mais je donne souvent aux enfants que je suis l'image que manger, c'est mettre du bois dans la cheminée. C'est un petit peu la même chose. On apporte de l'énergie et ça va être brûlé dans la cheminée. Et quand on chauffe sa maison avec une cheminée, on n'a pas tendance à mettre beaucoup de bois dans la cheminée avant d'aller se coucher. On a plutôt tendance à mettre une petite bûche juste pour que ça garde une petite température nocturne raisonnable. Mais c'est vrai que on pense, on parle un petit peu de chrononutrition, on pense que d'apporter trop d'énergie avant d'aller se coucher, c'est de l'énergie qui va être stockée, puisque pendant la nuit, on va beaucoup moins dépenser, enfin beaucoup moins non, on va dépenser 20 à 30% de moins dans la nuit que dans la journée. Donc c'est une sage précaution, à condition que ce soit pas sur forme de privation, mais c'est une sage précaution qui est pas délétère que de dire que voilà, il vaut mieux pas trop manger avant d'aller se coucher.
Merci beaucoup Amadou pour votre question. On va peut-être terminer sur le rôle de l'école aussi dans cette prévention. Les enfants, maintenant à partir de 3 ans, ils vont à la crèche, 4 ans, enfin à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça?
Alors l'éducation nutritionnelle pour moi doit être le rôle des parents. L'école n'est pas là pour apporter cette éducation nutritionnelle, puisque dans l'éducation nutritionnelle, il y a toute une partie culturelle qui est propre à la famille. Et donc à l'école, on ne peut pas avoir cette diversification. Donc, mais à l'école, en revanche, on peut être amené à faire du dépistage précoce. Effectivement, en France, on a une visite médicale obligatoire par les infirmières scolaires qui font un travail extraordinaire en deuxième année de maternelle, peser et mesurer les enfants à ce moment-là et poser le point sur la courbe de corpulence permet de faire un dépistage précoce et donc d'alerter les parents sans dramatiser, mais en disant attention, voilà, votre enfant montre un signe qui serait peut-être prédisposé à devenir obèse.
C'est vrai que les parents ont du mal à le voir parce qu'ils le voient tous les jours, leur enfant, ils le voient grandir, grossir, on ne sait pas trop à quel moment il faut s'inquiéter.
C'est très difficile, mais c'est très difficile parce que ce qui serait génial, c'est de pouvoir s'en inquiéter avant que l'enfant devienne gros. Et les parents n'en ont pas conscience. Et c'est vrai que le message est difficile à donner à ce moment-là. Quand on trace une courbe de corpulence et qu'on voit le rebond précoce d'adiposité et que l'enfant n'est pas encore en surpoids, c'est parfois mal reçu de la part des parents de dire « Attention, votre enfant va devenir obèse ». Mais pourtant, ça serait la meilleure solution.
On va terminer avec une question d'Anse qui nous appelle de Lubumbashi aussi. Bonjour Anse, posez votre question.
Bonjour, j'aimerais savoir si l'obésité peut ralentir la croissance des bébés. Parce que parfois vous voyez quand un bébé mince, on dit qu'il est lancé, mais quand il est déjà gros, on dit non, il est devenu moins élancé. Alors, ma question est celle de savoir si l'obésité peut ralentir la croissance d'un bébé.
Merci beaucoup, Hans, pour votre question, Laurent Fidalgo.
Alors, c'est exactement le contraire. En fait, l'obésité accélère la croissance de manière classique. Un enfant qui grossit plus vite, qui prend plus de poids, va avoir tendance à plus grandir et prendre de l'avance sur sa croissance. À la fin de la croissance, la plupart des enfants gardent un léger bénéfice de cette avance de croissance. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été obèse ou qui a été gros pendant son enfance sera plus grand à la taille adulte que s'il ne l'avait pas été.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct, docteur Laurent Fidalgo, nutritionniste très impliqué dans la prévention contre l'obésité des enfants. Vous avez su faire passer vraiment tous ces messages de dépistage et de prévention. Et vous êtes également dans le réseau de prévention et prise en charge de l'obésité pédiatrique, le REPOP Île-de-France, et nutritionniste au pôle médical des Alizés à Marne-la-Vallée. Merci à toute l'équipe aujourd'hui, à C'est Tous, à Maquet, Didier Bleu et Caroline Rousseau. Merci pour vos messages nombreux. Préparez-vous pour demain. La loi pour l'avortement à 40 ans en France, mais dans le monde, une IVG sur deux est toujours illégale. Alors quelles sont les conséquences sur la santé des femmes? On attend vos appels au 33 1 84 22 75 75.